Il est 6h40, vous écoutez France Culture, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Dans votre journal des idées, vous analysez ce matin la brutalisation du débat public, l'avènement d'une culture du clash, ouais. Le règne de la post-vérité. Tout cela ne serait pas aussi nouveau qu'on pourrait le penser, Jacques.
Oui, s'il est vrai que le phénomène doit beaucoup, dans sa forme contemporaine, à l'essor des nouveaux médias numériques et à leur influence sur l'ensemble de la sphère communicationnelle, un coup d'œil rétrospectif révèle une remarquable et ancienne continuité. Dans un livre qui vient de paraître chez Payot sous le titre « Réflexe primitif », Peter Sloterdijk brosse une généalogie du rapport ambigu à la vérité et du caractère consubstantiel à la condition humaine telle qu'elle est définie depuis les origines de l'obstination dans l'erreur. Le philosophe relève que les visions du monde développées par les civilisations de haute époque ont conçu l'humain comme un être dont la nature veut qu'il soit victime de ses erreurs. De l'Inde antique ou des Zoroastriens au mythe platonicien de la caverne, l'histoire serait le résultat d'un conflit entre la vérité et l'erreur, incarné par des divinités antagonistes, où l'humain serait condamné au choix du pire, le combat dans le camp du bien fournissant la matrice de ce qui portera ultérieurement des noms aussi sonores que la vraie religion, mission, combat pour le progrès ou djihad. C'est ainsi qu'on a pu justifier la terreur au nom du bien. Dans le christianisme, l'insistance endurcie que l'on porte sur le faux prend le nom de péché. Elle suggère l'idée d'un acte rebelle qui s'illustre dans le mensonge comme une insurrection de principe contre le devoir de dire la vérité. Et par un retournement dont l'histoire a le secret, le camp du bien et de la vérité a fini par se constituer en idéologie, trace fossile d'une vérité passée au service du mensonge, cible ultérieure de toutes les déconstructions révolutionnaire. C'est alors que l'idéologie en échec laisse libre cours au cynisme, dernière figure en date de la conscience qui se trompe, que l'on trompe et qui trompe. Le cynisme, c'est une forme de désinhibition. Si l'hypocrisie était une révérence du vice à la vertu, le cynisme met quant à lui en œuvre le refus que le mensonge oppose à la convention consistant à se couvrir d'idéalisme. D'où le statut aujourd'hui ambivalent du politiquement correct, la guerre de tous contre tous et le succès des populismes. L'époque que Christian Salmon a décrite comme l'ère du clash dans un livre récent paru sous ce titre, après le déclin du spin doctor, le conseiller en communication qui avait pour tâche de produire un storytelling, récit conforme à l'idéologie du pouvoir, cette époque obéit désormais à la loi du feedback positif propre aux réseaux sociaux. Le buzz ne fait aucune distinction entre la diffusion d'une information et sa teneur en vérité, du moment qu'elle est amplement partagée. Une logique qui semble même contaminer les milieux intellectuels. Jean-Marie Durand a mené l'enquête pour la revue du Crieur sur le nouveau climat de la controverse savante. S'il est vrai, comme disait Bourdieu, que la vérité, s'il y en a une, est l'enjeu de lutte, celle-ci ne devrait pourtant pas dégénérer en attaque ad hominem, comme le montrent les nombreux exemples cités. Patrick Boucheron, lui-même objet de violentes diatribes pour l'ouvrage qu'il a dirigé sur l'histoire mondiale de la France, a rappelé dans Le mot qui tue, un essai collectif sur l'histoire des violences intellectuelles, que même la tradition humaniste n'était pas à l'abri de l'invective. Pétrarque décrivait l'espace de l'échange intellectuel comme une arène poussiéreuse et bruissante d'injures. L'un des facteurs de tension aujourd'hui est la forte pression sur les postes qui crée entre les chercheurs une situation de concurrence aggravée par l'état déplorable de l'université, précarisée, sous-dotée, dirigée par des bureaucrates devenus des apparatchiks de la recherche, estime Arnaud Saint-Martin, qui dénonce également une forme d'entrepreneurisation de l'université. Le sociologue anime avec Jérôme Lamy la revue Zilzel, dont la dernière livraison propose un grand dossier sur la rencontre manquée entre les Science and Technology Studies et la question de l'intelligence artificielle, avec pour conséquence des cécités partielles lorsqu'il s'agit d'interroger la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Harry Collins, spécialiste de l'approche sociologique des machines intelligentes, explique ce qu'elle peut apporter dans ce domaine. Par ailleurs, Clémentine Gozlan a mené une enquête ethnographique sur l'ARS, l'agence publique chargée d'évaluer la recherche. Elle montre comment les chercheurs se sont impliqués dans la définition des critères de scientificité des revues de sciences humaines, une évaluation essentiel pour la carrière de ceux qui contribuent à ces revues. L'agence joue également un rôle dans l'attribution des enveloppes budgétaires de la recherche. La sociologue évoque notamment le débat sur la distinction entre posture scientifique et démarche militante, un débat toujours vif, et notamment dans cette enceinte, sans pour autant virer à l'anathème, comme on peut le voir dans sa version médiatique.